Experience holiday cheer at Tanger Outlets with savings up to 70% off your favorite brands. From fragrances to accessories and the latest styles, discover the best gifts for everyone on your list. Save big at Nike Factory Store, Michael Kors, Under Armour, Coach, Polo Ralph Lauren, Kate Spade New York, and so many more. Unwrap the best at Tanger Outlets. Hundreds of brands, endless gifting options. Plan your trip at Tanger.com. Experience holiday cheer at Tanger Outlets with savings up to 70% off your favorite brands. From fragrances to accessories and the latest styles, discover the best gifts for everyone on your list. Save big at Nike Factory Store, Michael Kors, Under Armour, Coach, Polo Ralph Lauren, Kate Spade New York, and so many more. Unwrap the best at Tanger Outlets. Hundreds of brands, endless gifting options. Plan your trip at Tanger.com.
Section 4 de Arsène Lupin contre Herlock Sholmès. Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org. Enregistré par Gilles Leblanc. Arsène Lupin contre Herlock Sholmès par Maurice Leblanc. Section 4. Le diamant bleu. Suite. Résumons cette curieuse affaire dont les émouvantes et dramatiques péripéties nous ont tous passionnés et sur laquelle il m'est enfin permis de jeter quelques lumières. Le soir du 10 août, les hôtes de M. et Mme de Crozon étaient réunis dans le salon du magnifique château qui domine la baie de la Somme. On fit de la musique. La comtesse se mit au piano et posa sur un petit meuble près de l'instrument ses bijoux, parmi lesquels se trouvait la bague du baron d'Autrec. Au bout d'une heure, le comte se retira, ainsi que ses deux cousins, les Dandel et Madame de Réal, une amie intime de la comtesse de Crozon. Celle-ci resta seule avec M. Bleschen, consul autrichien, et sa femme. Ils causèrent, puis la comtesse éteignit une grande lampe située sur la table du salon. Au même moment, M. Bleschen éteignait les deux lampes du piano. Il y eut un instant d'obscurité, un peu d'effarement, puis le consul alluma une bougie, et tous trois gagnèrent leurs appartements. Mais à peine chez elle, la comtesse se souvint de ses bijoux et enjoignit à sa femme de chambre d'aller les chercher. Celle-ci revint, et les déposa sur la cheminée sans que sa maîtresse les examinât. Le lendemain, Madame de Crozon constata qu'il manquait la bague au diamant bleu. Elle avertit son mari. Leur conclusion fut immédiate. La femme de chambre étant au-dessus de tout soupçon, le coupable ne pouvait être que M. Bleschen. Le comte prévint le commissaire central d'Amiens, qui ouvrit une enquête et, discrètement, organisa la surveillance la plus active pour que le consul autrichien ne pût ni vendre ni expédier la bague. Jour et nuit, des agents entourèrent le château. Deux semaines s'écoulent sans le moindre incident. M. Bleschen annonce son départ. Ce jour-là, une plainte est déposée contre lui. Le commissaire intervient officiellement et ordonne la visite des bagages. Dans un petit sac dont la clé ne quitte jamais le consul, on trouve un flacon de poudre de savon. Dans ce flacon, la bague. Madame Bleschen s'évanouit. Son mari est mis en état d'arrestation. On se rappelle le système de défense adopté par l'inculpé. « Il ne peut s'expliquer, disait-il, la présence de la bague que par une vengeance de M. de Crozon. » Le comte est brutal et rend sa femme malheureuse. J'ai eu un long entretien avec celle-ci, elle l'est vivement engagée au divorce. Mis au courant, le comte s'est vengé en prenant la bague et lors de mon départ en la glissant dans le nécessaire de toilette. Le comte et la comtesse maintinrent énergiquement leur plainte. Entre l'explication qu'ils donnaient et celle du consul, toutes deux également possible, également probable, le public n'avait qu'à choisir. aucun fait nouveau ne fit pencher l'un des plateaux de la balance. Un mois de bavardage, de conjectures et d'investigations n'amena pas un seul élément de certitude. Ennuyé par tout ce bruit, impuissant à produire la preuve évidente de culpabilité qui eût justifié leur accusation, M. et Mme de Crozon demandèrent qu'on leur envoyât de Paris un agent de la sûreté capable de débrouiller les fils de l'écheveau. On envoya Ganimard. Durant 4 jours, le vieil inspecteur principal fureta, potina, se promena dans le parc, eut de longues conférences avec la bonne, avec le chauffeur, les jardiniers, les employés des bureaux de poste voisins, visita les appartements qu'occupa le ménage Bléchen, les cousins d'Andel et Madame de Réal. Puis, un matin, il disparut sans prendre congé de ses hôtes. Mais une semaine plus tard, il recevait ce télégramme. « Vous prie venir demain, vendredi, 5 heures soir, au thé japonais, rue Boissy d'Anglas, Ganimard. » À 5 heures exactement, ce vendredi, leur automobile s'arrêtait devant le numéro 9 de la rue Boissy d'Anglas. Sans un mot d'explication, le vieil inspecteur qui les attendait sur le trottoir les conduisit au premier étage du thé japonais. Ils trouvèrent dans l'une des salles 2 personnes que Ganimard leur présenta. M. Gerbois, professeur au lycée de Versailles, à qui, vous vous en souvenez, Arsène Lupin vola 500 000. M. Léonce d'Autrec, neveu et légataire universel du baron d'Autrec. Les 4 personnes s'assirent. Quelques minutes après, il en vint une 5e. C'était le chef de la sûreté. M. Doudoui paraissait d'assez méchante humeur. Il salua et dit « Qu'a-t-il donc, Ganimard? On m'a remis à la préfecture votre avis téléphonique. Est-ce sérieux? » « Très sérieux, chef. Avant 1 heure, les dernières aventures auxquelles j'ai donné mon concours auront leur dénouement ici. Il m'a semblé que votre présence était indispensable. » « Et la présence également de Dieuzy et de Folenfant que j'ai aperçu en bas aux environs de la porte? » « Oui, chef. Et en quoi? S'agit-il d'une arrestation? Quelle mise en scène? Allons, Ganimard, on vous écoute. » Ganimard hésita quelques instants, puis prononça avec l'intention visible de frapper ses auditeurs. « Tout d'abord, j'affirme que M. Bléchen n'est pour rien dans le vol de la bague. « Oh, oh !» fit M. Duduit. « C'est une simple affirmation, mais fort grave. » Et le comte demanda, « Est-ce à cette découverte que se bornent vos efforts ?»« Non, monsieur. Le surlendemain du vol, les hasards d'une excursion en automobile ont mené 3 de vos invités jusqu'au bourg de Crécy. Tandis que 2 de ces personnes allaient visiter le fameux champ de bataille, la 3e se rendait en hâte au bureau de poste et expédiait une petite boîte ficelée, cachetée, suivant les règlements, et déclarée pour une valeur de 100 francs. M. de Crozon objecta. « Il n'y a rien là que de naturel. » « Peut-être vous semblera-t-il moins naturel que cette personne, au lieu de donner son nom véritable, ait fait l'expédition sous le nom de Rousseau. » Et que le destinataire, un monsieur Belou, demeurant à Paris, est déménagé le soir même du jour où il recevait la boîte, c'est-à-dire la bague. Il s'agit peut-être, interrogea le comte, d'un de mes cousins d'Andel. Il ne s'agit pas de ces messieurs. Donc de Madame de Réal. Oui. La comtesse s'écria, stupéfaite. Vous accusez mon amie Madame de Réal? « Une simple question, madame, » répondit Ganimard. « Madame de Réal assista-t-elle à la vente du diamant bleu ?»«
Oui, mais de son côté, nous n'étions pas ensemble. »«
Vous avait-elle engagé à acheter la bague ?» La comtesse rassembla ses souvenirs.
« Oui, en effet, je crois même que c'est elle qui m'en a parlé la première. »«
Je note votre réponse, madame. Il est bien établi. » que c'est Madame de Réal qui vous a parlé la première de cette bague et qui vous a engagé à l'acheter.
Cependant, mon ami est incapable.
Pardon, pardon. Madame de Réal n'est que votre amie occasionnelle et non votre amie intime, comme les journaux l'ont imprimé, ce qui a écarté d'elle les soupçons. Vous ne la connaissez que depuis cet hiver. Or, je me fais fort de vous démontrer que tout ce qu'elle vous a raconté sur elle, sur son passé, sur ses relations, est absolument faux. Que Madame Blanche de Réal n'existait pas avant de vous avoir rencontré et qu'elle n'existe plus à l'heure actuelle.
Et après ?
Après ? Fit Ganimard.
Oui, toute cette histoire est très curieuse, mais en quoi s'applique-t-elle à notre cas ? Si tant est que Madame de Réal ait pris la bague, ce qui n'est nullement prouvé, pourquoi l'a-t-elle cachée dans la poudre dentifrice de Monsieur Bleichen ? Que diable, quand on se donne la peine de dérober le diamant bleu, on le garde. Qu'avez-vous à répondre à cela ?
Moi ? Rien. Mais Madame de Réal y répondra.
Elle existe donc ?
Elle existe, sans exister. En quelques mots, voici. Il y a 3 jours, en lisant le journal que je lis chaque jour, j'ai vu en tête de la liste des étrangers à Trouville, Hôtel Beaurivage, Madame de Réal, etc. Vous comprendrez que le soir même, j'étais à Trouville et que j'interrogeais le directeur de Beaurivage. D'après le signalement et d'après certains indices que je recueillis, cette Madame de Réal était bien la personne que je cherchais. Mais elle avait quitté l'hôtel, laissant son adresse à Paris, 3, rue du Colisée. Avant-hier, je me suis présenté à cette adresse, et j'appris qu'il n'y avait point de Madame de Réal, mais tout simplement une dame Réal, qui habitait le 2e étage, qui exerçait le métier de courtière en diamants, et qui s'absentait souvent. La veille encore, elle arrivait de voyage. Hier, j'ai sonné à sa porte, et j'ai offert à Madame Réal, sous un faux nom, mes services comme intermédiaire auprès de personnes en situation d'acheter des pierres de valeur. Aujourd'hui, nous avons rendez-vous ici pour une première affaire.
Comment ? Vous l'attendez ?
À 5h30.
Et vous êtes sûr ?
Que c'est la Madame de Réal du château de Crozon ? J'ai des preuves irréfutables. Mais écoutez, le signal de Folenfant. Un coup de sifflet avait retenti. Ganimard se leva vivement.
Il n'y a pas de temps à perdre. Monsieur et Madame de Crozon, veuillez passer dans la pièce voisine. Vous aussi, Monsieur d'Autrec. Et vous aussi, Monsieur Gerbois. La porte restera ouverte, et au premier signal, je vous demanderai d'intervenir. Restez chef, je vous en prie.
Et s'il arrive d'autres personnes, observa Monsieur Dudouis.
Non. Cet établissement est nouveau, et le patron, qui est un de mes amis, ne laissera monter âme qui vive, sauf la dame blonde.
La dame blonde, que dites-vous ?
La dame blonde elle-même, chef, la complice et l'amie d'Arsène Lupin, la mystérieuse dame blonde, contre qui j'ai des preuves certaines, mais contre qui je veux en outre et devant vous réunir les témoignages de tous ceux qu'elle a dépouillés.
Il se pencha par la fenêtre. Elle approche. Elle entre. Plus moyen qu'elle s'échappe.
Folenfant et Dieuzy gardent la porte. La dame blonde est à nous, chef.
Presque aussitôt, une femme s'arrêtait sur le seuil, grande, mince, le visage très pâle et les cheveux d'un or violent. Une telle émotion suffoqua Ganimard qu'il demeura muet, incapable d'articuler le moindre mot. Elle était là, en face de lui, à sa disposition. Quelle victoire sur Arsène Lupin, et quelle revanche! Et en même temps, cette victoire lui semblait remportée avec une telle aisance qu'il se demandait si la dame blonde n'allait pas lui glisser entre les mains grâce à quelques-uns de ces miracles dont Lupin était coutumier. Elle attendait, cependant, surprise de ce silence, et regardait autour d'elle sans dissimuler son inquiétude.
« Elle va partir, elle va disparaître, » pensa Ganimard, effaré. Brusquement, il s'interposa entre elle et la porte. Elle se retourna et voulut sortir.
« Non, non, » fit-il, « pourquoi vous éloigner ?»«
Mais enfin, monsieur, je ne comprends rien à ces manières, laissez-moi. » Il n'y a aucune raison pour que vous vous en alliez, madame, et beaucoup, au contraire, pour que vous restiez. Cependant, inutile, vous ne sortirez pas. » Toute pâle, elle s'affaissa sur une chaise et balbutia. « Que voulez-vous ? » Ganimard était vainqueur. Il tenait la dame blonde. Maître de lui, il articula. « Je vous présente cet ami dont je vous ai parlé et qui serait désiré d'acheter des bijoux, et surtout des diamants. Vous êtes-vous procuré celui que vous m'aviez promis ?»«
Non, non, je ne sais pas. Je ne me rappelle pas.
Mais si, cherchez bien. Une personne de votre connaissance devait vous remettre un diamant teinté. Quelque chose comme le diamant bleu, ai-je dit en riant. Et vous m'avez répondu, « Précisément, j'aurai peut-être votre affaire. Vous souvenez-vous ? » Elle se taisait. Un petit réticule qu'elle tenait à la main tomba. Elle le ramassa vivement et le serra contre elle. Ses doigts tremblaient un peu. « Allons, dit Ganimard, je vois que vous n'avez pas confiance en nous, madame de Réal. Je vais vous donner le bon exemple et vous montrer ce que je possède, moi. » Il tira de son portefeuille un papier qu'il déplia et tendit une mèche de cheveux. « Voici d'abord quelques cheveux d'Antoinette Bréa, arrachés par le baron et recueillis dans la main du mort. J'ai vu mademoiselle Gerbois. Elle a reconnu positivement la couleur des cheveux de la dame blonde, la même couleur que les vôtres, d'ailleurs. Exactement la même couleur. » Madame Réal l'observait d'un air stupide, et, comme si vraiment elle ne saisissait pas le sens de ses paroles, il continua. « Et maintenant, voici deux flacons d'odeur, sans étiquette. Il est vrai, et vide, mais encore assez imprégnés de leur odeur pour que mademoiselle Gerbois ait pu, ce matin même, y distinguer le parfum de cette dame blonde qui fut sa compagne de voyage durant 2 semaines. Or, l'un de ces flacons provient de la chambre que madame de Réal occupait au château de Crozon, et l'autre de la chambre que vous occupiez à l'hôtel Beau Rivage. »
« Que dites-vous, la dame blonde, le château de Crozon ?»
Sans répondre, l'inspecteur aligna sur la table 4 feuilles. « Enfin, dit-il, voici ces 4 feuilles. Un spécimen de l'écriture d'Antoinette de Bréa, un autre de la dame qui écrivit au baron Herschmann lors de la vente du diamant bleu, un autre de madame de Réal lors de son séjour à Crozon, et le 4e de vous-même, madame. C'est votre nom et votre adresse donnés par vous au portier de l'hôtel Beau Rivage à Trouville. Or, comparez les 4 écritures, elles sont identiques. »
Mais vous êtes fou, monsieur. Vous êtes fou. Que signifie tout cela ?
Cela signifie, madame, s'écria Ganimard dans un grand mouvement, que la dame blonde, l'amie et la complice d'Arsène Lupin, n'est autre que vous. Il poussa à la porte du salon voisin, se rua sur M. Gerbois, le bouscula par les épaules et l'attirant devant madame Réal. « M. Gerbois, reconnaissez-vous la personne qui enleva votre fille et que vous avez vue chez maître Detninan ?»«
Non. »
Il y eut comme une commotion dont chacun reçut le choc. Ganimard chancela.
« Non ! Est-ce possible ? Voyons, réfléchissez. »
C'est tout réfléchi. Madame est blonde, comme la dame blonde, pâle, comme elle, mais elle ne lui ressemble pas du tout.
Je ne puis croire. Une pareille erreur est inadmissible. Monsieur Dautrec, vous reconnaissez bien Antoinette Bréa ?
J'ai vu Antoinette Bréa chez mon oncle. Ce n'est pas elle.
Et madame n'est pas non plus madame de Réal, affirma le comte de Crozon.
C'était le coup de grâce. Ganimard en fut étourdi et ne broncha plus, la tête basse, les yeux fuyants. De toutes ces combinaisons, il ne restait rien. L'édifice s'écroulait. Monsieur Dudouis se leva. « Vous nous excuserez, madame, il y a là une confusion regrettable que je vous prie d'oublier. Mais ce que je ne saisis pas bien, c'est votre trouble, votre attitude bizarre depuis que vous êtes ici. »
Mon Dieu, monsieur, j'avais peur. Il y a plus de 100 000 francs de bijoux dans mon sac, et les manières de votre ami n'étaient guère rassurantes.
Mais vos absences continuelles...
N'est-ce pas mon métier qui l'exige?
Monsieur Dudouis n'avait rien à répondre. Il se tourna vers son subordonné.
Vous avez pris vos informations avec une légèreté déplorable, Ganimard, et tout à l'heure vous vous êtes conduit envers madame de la façon la plus maladroite. Vous viendrez vous en expliquer dans mon cabinet.
L'entrevue était terminée, et le chef de la sûreté se disposait à partir, quand il se passa un fait vraiment déconcertant. Madame Réal s'approcha de l'inspecteur et lui dit
« J'entends que vous vous appelez Monsieur Ganimard. Je ne me trompe pas ?»«
Non. »«
En ce cas, cette lettre doit être pour vous. Je l'ai reçue ce matin, avec l'adresse que vous pouvez lire. Monsieur Justin Ganimard, au bon soin de Madame Réal. J'ai pensé que c'était une plaisanterie, puisque je ne vous connaissais pas sous ce nom. » Mais sans doute ce correspondant inconnu savait-il notre rendez-vous.
Par une intuition singulière, Justin Ganimard fut prêt de saisir la lettre et de l'anéantir. Il n'osa devant son supérieur et déchira l'enveloppe. La lettre contenait ces mots qu'il articula d'une voix à peine intelligible. Il y avait une fois une dame blonde, un Lupin et un Ganimard. Or, le mauvais Ganimard voulait faire du mal à la jolie dame blonde, et le bon Lupin ne le voulait pas. Aussi, le bon Lupin, désireux que la dame blonde entrât dans l'intimité de la comtesse de Crozon, lui fit-il prendre le nom de madame de Réal, qui est celui, ou à peu près, d'une honnête commerçante dont les cheveux sont dorés et la figure pâle. Et le bon Lupin se disait, si jamais le mauvais Ganimard est sur la piste de la dame blonde, combien il pourra m'être utile de le faire dévier sur la piste de l'honnête commerçante. Sage précaution et qui porte ses fruits. Une petite note envoyée au journal du mauvais Ganimard, un flacon d'odeur oublié volontairement par la vraie dame blonde à l'hôtel Beau Rivage, le nom et l'adresse de madame Réal écrit par cette vraie dame blonde sur les registres de l'hôtel, et le tour est joué. Qu'en dites-vous, Ganimard?
J'ai voulu vous conter l'aventure par le menu, sachant qu'avec votre esprit vous seriez le premier à en rire. De fait, elle est piquante, et j'avoue que pour ma part, je m'en suis follement diverti.
À vous donc merci, cher ami, et mes bons souvenirs à cet excellent monsieur Dudouis, Arsène Lupin.
Mais il sait tout, gémit Ganimard, qui ne songeait nullement rire. Il sait des choses que je n'ai dites à personne. Comment pouvait-il savoir que je vous demanderais de venir, chef? Comment pouvait-il savoir ma découverte du premier flacon? Comment pouvait-il savoir?
Il trépignait, s'arrachait les cheveux, en proie au plus tragique désespoir. Monsieur Dudouis eut pitié de lui.
Allons, Ganimard, consolez-vous, on tâchera de mieux faire une autre fois.
Et le chef de la sûreté s'éloigna, accompagné de madame Réal. 10 minutes s'écoulèrent. Ganimard lisait et relisait la lettre de Lupin. Dans un coin, M. et Mme de Crozon, M. d'Autrec et M. Gerbois s'entretenaient avec animation. Enfin, le comte s'avança vers l'inspecteur et lui dit « De tout cela, il résulte, cher monsieur, que nous ne sommes pas plus avancés qu'avant. » « Pardon, mon enquête a établi que la dame blonde est l'héroïne indiscutable de ses aventures et que Lupin la dirige. C'est un pas énorme. »
« Et qui ne sert à rien. Le problème est peut-être même plus obscur. La dame blonde tue pour voler le diamant bleu et elle ne le vole pas. Elle le vole et c'est pour s'en débarrasser au profit d'un autre. »
« Je n'y peux rien. »
« Certes, mais quelqu'un pourrait peut-être. »
« Que voulez-vous dire ?»
Le comte hésitait, mais la comtesse prit la parole et nettement.
« Il est un homme, un seul après vous, selon moi, qui serait capable de combattre Lupin et de le réduire à merci. Monsieur Ganimard, vous serait-il désagréable que nous sollicitions l'aide d'Herlock Sholmès ?»
Il fut décontenancé.
« Mais non, seulement je ne comprends pas bien. »
Voilà,
Tous ces mystères m'agacent. Je veux voir clair. Monsieur Gerbois et Monsieur d'Autrec ont la même volonté, et nous nous sommes mis d'accord pour nous adresser au célèbre détective anglais.
Vous avez raison, madame, prononça l'inspecteur avec une loyauté qui n'était pas sans quelque mérite. Vous avez raison. Le vieux Ganimard n'est pas de force à lutter contre Arsène Lupin. Herlock Sholmès y réussira-t-il? Je le souhaite, car j'ai pour lui la plus grande admiration. Cependant, il est peu probable.
Il est peu probable qu'il aboutisse?
C'est mon avis. Je considère qu'un duel entre Herlock Sholmès et Arsène Lupin est une chose réglée d'avance. L'Anglais sera battu.
En tout cas, peut-il compter sur vous?
Entièrement, madame. Mon concours lui est assuré sans réserve.
Vous connaissez son adresse?
Oui. Parker Street, 219.
Le soir même, monsieur et madame de Crozon se désistaient de leur plainte contre le consul Bleschen, et une lettre collective était adressée à Herlock Sholmès. Fin de la section 4.
Section 5 de Arsène Lupin contre Herlock Sholmès. Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org. Enregistré par Gilles Leblanc. Arsène Lupin contre Herlock Sholmès par Maurice Leblanc. Section 5. Herlock Sholmès ouvre les hostilités.
Que désirent ces messieurs?
Ce que vous voulez, répondit Arsène Lupin, en homme que ces détails de nourriture intéressaient peu. Ce que vous voulez, mais ni viande ni alcool. Le garçon s'éloigna dédaigneux. Je me criai : Comment, encore végétarien?
De plus en plus, affirma Lupin.
Par goût? Par croyance? Par habitude?
Par hygiène.
Et jamais d'infraction?
Oh, si, quand je vais dans le monde, pour ne pas me singulariser.
Nous dînions tous deux près de la gare du Nord, au fond d'un petit restaurant où Arsène Lupin m'avait convoqué. Il se plaît ainsi, de temps à autre, à me fixer le matin, par télégramme, un rendez-vous en quelque coin de Paris. Il s'y montre toujours d'une verve intarissable, heureux de vivre, simple et bon enfant. Et toujours c'est une anecdote imprévue, un souvenir, le récit d'une aventure que j'ignorais. Ce soir-là, il me parut plus exubérant encore qu'à l'ordinaire. Il riait et bavardait avec un entrain singulier. Et cette ironie fine qui lui est spéciale, ironie sans amertume, légère et spontanée. C'était plaisir que de le voir ainsi, et je ne pus m'interdire de lui exprimer mon contentement. « Eh oui, s'écria-t-il, j'ai de ces jours où tout me semble délicieux, où la vie est en moi comme un trésor infini que je n'arriverai jamais à épuiser. » Et Dieu sait pourtant que je vis sans compter.
Trop, peut-être.
Le trésor est infini, vous dis-je. Je puis me dépenser et me gaspiller. Je puis jeter mes forces et ma jeunesse aux quatre vents. C'est de la place que je fais à des forces plus vives et plus jeunes. Et puis vraiment, ma vie est si belle. Je n'aurais qu'à vouloir, n'est-ce pas, pour devenir du jour au lendemain, que sais-je, orateur, chef d'usine, homme politique. Eh bien, je vous le jure, jamais l'idée ne m'en viendrait. Arsène Lupin, je suis. Arsène Lupin, je reste. Et je cherche vainement dans l'histoire une destinée comparable à la mienne, mieux remplie, plus intense.
Napoléon?
Oui, peut-être. Mais alors, Napoléon, à la fin de sa carrière impériale, pendant la campagne de France, quand l'Europe l'écrasait, et qu'il se demandait à chaque bataille si ce n'était pas la dernière qu'il livrait.
Était-il sérieux? Plaisanta-t-il?
Le ton de sa voix s'était échauffé. Il continua. Tout est là, voyez-vous, le danger. L'impression ininterrompue du danger. Le respirer comme l'air que l'on respire, le discerner autour de soi qui souffle, qui rugit, qui guette, qui approche. Et au milieu de la tempête, rester calme, ne pas broncher. Sinon, vous êtes perdu. Il n'y a qu'une sensation qui vaille celle-là, celle du chauffeur en course d'automobile. Mais la course dure une matinée, et ma course à moi dure toute la vie. Quel lyrisme ! M'écriai-je. Et vous allez me faire accroire que vous n'avez pas un motif particulier d'excitation ? Il sourit. Allons, dit-il, vous êtes un fin psychologue. Il y a en effet autre chose. Il se versa un grand verre d'eau fraîche, l'avala et me dit « Vous avez lu Le Temps d'aujourd'hui ?»« Ma foi, non. » Herlock Sholmès a dû traverser la Manche cet après-midi et arriver vers 6 heures. « Diable, et pourquoi ?»« Un petit voyage qui lui offre les Crozon, le neveu d'Autrec et le Gerbois. Ils se sont retrouvés à la gare du Nord et de là, ils ont rejoint Ganimard. En ce moment, ils confèrent tous les 6. Jamais, malgré la formidable curiosité qu'il m'inspire, je ne me permets d'interroger Arsène Lupin sur les actes de sa vie privée, avant que lui-même ne m'en ait parlé. Il y a là, de ma part, une question de réserve sur laquelle je ne transige point. À ce moment, d'ailleurs, son nom n'avait pas encore été prononcé, du moins officiellement, au sujet du diamant bleu. Je patientais donc. Il reprit. Le Temps publie également une interview de cet excellent Ganimard, d'après laquelle une certaine dame blonde, qui serait mon amie, aurait assassiné le baron d'Autrec et tenté de soustraire à madame de Crozon sa fameuse bague. Et, bien entendu, il m'accuse d'être l'instigateur de ses forfaits. Un léger frisson m'agita. Était-ce vrai? Devais-je croire que l'habitude du vol, son genre d'existence, la logique même des événements avaient entraîné cet homme jusqu'au crime? Je l'observai. Il semblait si calme, ses yeux vous regardaient si franchement. J'examinai ses mains. Elles avaient une délicatesse de modelé infinie, des mains inoffensives vraiment, des mains d'artiste. « Ganimard est un halluciné, murmurai-je. » Il protesta. « mais non, Ganimard a de la finesse, parfois même de l'esprit. »« De l'esprit ?»« Si, si, par exemple, cette interview est un coup de maître. Premièrement, il annonce l'arrivée de son rival anglais pour me mettre en garde et lui rendre la tâche plus difficile. Deuxièmement, il précise le point exact où il a mené l'affaire pour que Sholmès n'ait que le bénéfice de ses propres découvertes. C'est de bonne guerre. Quoi qu'il en soit, vous voici deux adversaires sur les bras. Et quels adversaires? Oh, l'un ne compte pas. Et l'autre? Sholmès? Oh, j'avoue que celui-ci est de taille. Mais c'est justement ce qui me passionne et ce pourquoi vous me voyez de si joyeuse humeur. D'abord, question d'amour-propre. On juge que ce n'est pas de trop du célèbre anglais pour avoir raison de moi. Ensuite, pensez au plaisir que doit éprouver un lutteur de ma sorte à l'idée d'un duel avec Herlock Sholmès. Enfin, je vais être obligé de m'employer à fond, car je le connais, le bonhomme. Il ne reculera pas d'une semelle. Il est fort, très fort. Comme policier, je ne crois pas qu'il ait jamais existé ou qu'il existe jamais son pareil. Seulement, j'ai un avantage sur lui, c'est qu'il attaque et que moi, je me défends. Mon rôle est plus facile. En outre, il sourit imperceptiblement et, achevant sa phrase, « En outre, je connais sa façon de se battre et ne connais pas la mienne. » Et je lui réserve quelques bottes secrètes qui le feront réfléchir. » Il tapotait la table à petits coups de doigt et lâchait de menues phrases d'un air ravi. Arsène Lupin contre Herlock Sholmès. La France contre l'Angleterre. Enfin, Trafalgar sera vengé.
Ah, le malheureux! Il ne se doute pas que je suis préparé. Et un Lupin averti. Il s'interrompit subitement, secoué par une quinte de toux. Il se cacha la figure dans sa serviette, comme quelqu'un qui a avalé de travers. « Une miette de pain ? » demandai-je. « Buvez donc un peu d'eau. »« Non, ce n'est pas ça, » dit-il, d'une voix étouffée. « Alors quoi ? Le besoin d'air. Voulez-vous qu'on ouvre la fenêtre ? Non, je sors. Vite, donnez-moi mon pardessus et mon chapeau. Je file. »
« Ah, ça, mais que signifie ?»«
Ces deux messieurs qui viennent d'entrer. Vous voyez le plus grand ? Eh bien, en sortant, marchez à ma gauche de manière à ce qu'ils ne puissent m'apercevoir. »«
Celui qui s'assoit derrière vous ? » ?»«
Celui-là. Pour des raisons personnelles, je préfère... Dehors, je vous expliquerai. »«
Mais qui est-ce donc ?»«
Herlock Sholmès. » Il fit un violent effort sur lui-même, comme s'il avait honte de son agitation, reposa sa serviette, avala un verre d'eau et me dit en souriant, tout à fait remis.
« C'est drôle, hein ? » ?»«
Je ne m'émeus pourtant pas facilement, mais cette vision imprévue... »«
Qu'est-ce que vous craignez, puisque personne ne peut vous reconnaître au travers de toutes vos transformations ? Moi-même, chaque fois que je vous retrouve... Il me semble que je suis en face d'un individu nouveau.
Lui me reconnaîtra, dit Arsène Lupin. Lui, il ne m'a vu qu'une fois, mais j'ai senti qu'il me voyait pour la vie, et qu'il voyait non pas mon apparence toujours modifiable, mais l'être même que je suis. Et puis, je ne m'y attendais pas, quoi. Quelle singulière rencontre, ce petit restaurant.
« Eh bien, lui dis-je, nous sortons ?»«
Non, non. Qu'allez-vous faire ?»«
Le mieux serait d'agir franchement, de m'en remettre à lui. »«
Vous n'y pensez pas ?»«
Mais si, j'y pense. Outre que j'aurai avantage à l'interroger, à savoir ce qu'il sait. »«
Ah, tenez, j'ai l'impression que ses yeux se posent sur ma nuque, sur mes épaules, et qu'il cherche. » qu'il se rappelle. Il réfléchit. J'avisai un sourire de malice au coin de ses lèvres, puis, obéissant, je crois, à une fantaisie de sa nature primesautière plus encore qu'aux nécessités de la situation, il se leva brusquement, fit volte-face et s'inclinant, tout joyeux.
Par quel hasard ! C'est vraiment trop de chance ! Permettez-moi de vous présenter un de mes amis.
Une seconde ou deux, l'Anglais fut décontenancé. Puis il eut un mouvement instinctif, tout prêt à se jeter sur Arsène Lupin. Celui-ci hocha la tête. « Vous auriez tort, sans compter que le geste ne serait pas beau et tellement inutile. » L'Anglais se retourna de droite et de gauche, comme s'il cherchait du secours.
« Cela non plus, dit Lupin. « D'ailleurs, êtes-vous bien sûr d'avoir qualité pour mettre la main sur moi ?»«
Allons, montrez-vous beau joueur. » Se montrer beau joueur en l'occasion, ce n'était guère tentant. Néanmoins, il est probable que ce fut ce parti qui sembla le meilleur à l'Anglais, car il se leva à demi et froidement présenta « Monsieur Wilson, mon ami et collaborateur. »« Monsieur Arsène Lupin. » La stupeur de Wilson provoqua l'hilarité. Ses yeux écarquillés et sa bouche large ouverte barraient de deux traits sa figure épanouie, à la peau luisante et tendue comme une pomme, et autour de laquelle des cheveux en brosse et une barbe courte étaient plantés comme des brins d'herbe, drus et vigoureux. Wilson, vous ne cachez pas assez votre ahurissement devant les événements les plus naturels de ce monde, ricana Herlock Sholmès avec une nuance de raillerie.
Wilson balbutia.
Pourquoi ne l'arrêtez-vous pas?
Vous n'avez point remarqué, Wilson, que ce gentleman est placé entre la porte et moi, et à deux pas de la porte. Je n'aurai pas le temps de bouger le petit doigt qu'il serait déjà dehors. qu'à cela ne tienne, dit Lupin. Il fit le tour de la table et s'assit de manière à ce que l'anglais fût entre la porte et lui. C'était se mettre à sa discrétion. Wilson regarda Sholmès pour savoir s'il avait le droit d'admirer ce coup d'audace. L'anglais demeura impénétrable, mais au bout d'un instant, il appela « Garçon !» Le garçon accourut. Sholmès commanda des sodas, de la bière et du whisky. La paix était signée, jusqu'à nouvel ordre. Bientôt après, tous quatre assis à la même table, nous causions tranquillement. Sherlock Holmes est un homme comme on en rencontre tous les jours. Âgé d'une cinquantaine d'années, il ressemble à un brave bourgeois qui aurait passé sa vie devant un bureau à tenir des livres de comptabilité. Rien ne le distingue d'un honnête citoyen de Londres, ni ses favoris roussâtres, ni son menton rasé, ni son aspect un peu lourd, rien si ce n'est ses yeux terriblement aigus, vifs et pénétrants. Et puis, c'est Sherlock Holmes, c'est-à-dire une sorte de phénomène d'intuition, d'observation, de clairvoyance et d'ingéniosité. On croirait que la nature s'est amusée à prendre les deux types de policiers les plus extraordinaires que l'imagination ait produits, le Dupin d'Edgar Poe et le Lecoq de Gaboriau, pour en construire un à sa manière, plus extraordinaire encore et plus irréel. Et l'on se demande vraiment, quand on entend le récit de ses exploits qui l'ont rendu célèbre dans l'univers entier, on se demande si lui-même, ce Sherlock Holmes, n'est pas un personnage légendaire, un héros sorti vivant du cerveau d'un grand romancier, d'un Conan Doyle, par exemple. Tout de suite, quand Arsène Lupin l'interrogeait sur la durée de son séjour, il mit la conversation sur son terrain véritable. « Mon séjour dépend de vous, monsieur Lupin. »« Oh !» s'écria l'autre en riant. « Si cela dépendait de moi, je vous prierais de reprendre votre paquebot dès ce soir. »« Ce soir est un peu tôt, mais j'espère que dans 8 ou 10 jours... »« Vous êtes donc si pressé ?»« J'ai tant de choses en train. » Le vol de la banque anglo-chinoise, l'enlèvement de Lady Eccleston. Voyons, monsieur Lupin, croyez-vous qu'une semaine suffira? Largement, si vous vous en tenez à la double affaire du diamant bleu. C'est, du reste, le laps de temps qu'il me faut pour prendre mes précautions, au cas où la solution de cette double affaire vous donnerait sur moi certains avantages dangereux pour ma sécurité. « Eh mais, dit l'anglais, c'est que je compte bien prendre ces avantages en l'espace de 8 à 10 jours. »« Et me faire arrêter le 11e, peut-être ?»« Le 10e, dernière limite. » Lupin réfléchit et, hochant la tête, « Difficile, difficile. »« Difficile, oui, mais possible, donc certain. »« Absolument certain, dit Wilson. » comme si lui-même eût distingué nettement la longue série d'opérations qui conduirait son collaborateur au résultat annoncé. Sherlock Holmes sourit. « Wilson, qui s'y connaît, est là pour vous l'attester. » Et il reprit. « Évidemment, je n'ai pas tous les atouts entre les mains, puisqu'il s'agit d'affaires déjà vieilles de plusieurs mois. Il me manque les éléments, les indices sur lesquels j'ai l'habitude d'appuyer mes enquêtes. Comme les taches de boue et les cendres de cigarettes, articula Wilson avec importance. Mais outre les remarquables conclusions de M. Ganimard, j'ai à mon service tous les articles écrits à ce sujet, toutes les observations recueillies, et, conséquence de tout cela, quelques idées personnelles sur l'affaire. Quelques vues qui nous ont été suggérées soit par analyse, soit par hypothèse, ajouta Wilson sentencieusement. Est-il indiscret, fit Arsène Lupin, de ce ton déférent qu'il employait pour parler à Holmes, est-il indiscret de vous demander l'opinion générale que vous avez su vous former? Vraiment, c'était la chose la plus passionnante que de voir ces deux hommes en présence l'un de l'autre, les coudes sur la table, discutant gravement et posément comme s'ils avaient à résoudre un problème ardu ou à se mettre d'accord sur un point de controverse. Il s'était aussi d'une ironie supérieure, dont ils jouissaient tous deux profondément en dilettante et en artiste. Wilson, lui, se pâma d'aise. Herlock bourra lentement sa pipe, l'alluma et s'exprima de la sorte. « J'estime que cette affaire est infiniment moins complexe qu'elle ne le paraît au premier abord. » « Beaucoup moins, en effet, » fit Wilson, éco-fidèle. « Je dis l'affaire car, pour moi, il n'y en a qu'une. La mort du baron d'Autrec, l'histoire de la bague, et, ne l'oublions pas, le mystère du numéro 514, série 23, ne sont que les faces diverses de ce qu'on pourrait appeler l'énigme de la dame blonde. Or, à mon sens, il s'agit tout simplement de découvrir le lien qui réunit ces trois épisodes de la même histoire, le fait qui prouve l'unité des trois méthodes. Ganimard, dont le jugement est un peu superficiel, voit cette unité dans la faculté de disparition, dans le pouvoir d'aller et de venir tout en restant invisible. Cette intervention du miracle ne me satisfait pas. Et alors ? Alors, selon moi, énonça nettement Sholmès, la caractéristique de ces trois aventures, c'est votre dessein manifeste, évident, quoique inaperçu jusqu'ici, d'amener l'affaire sur le terrain préalablement choisi par vous. Il y a là de votre part plus qu'un plan, une nécessité, une condition sine qua non de réussite. Pourriez-vous entrer dans quelques détails ? Facilement. Ainsi, dès le début de votre conflit avec M. Gerbois, n'est-il pas évident que l'appartement de Maître Détinan est le lieu choisi par vous, le lieu inévitable où il faut qu'on se réunisse ? Il n'en est pas un qui vous paraisse plus sûr, à tel point que vous vous y donnez rendez-vous, publiquement, pourrait-on dire, à la dame blonde et à Mademoiselle Gerbois. « La fille du professeur, » précisa Wilson. « Maintenant, parlons du diamant bleu. Aviez-vous essayé de vous l'approprier depuis que le baron d'Autrec le possédait ? Non. Mais le baron prend l'hôtel de son frère, 6 mois après. » Intervention d'Antoinette Bréa et première tentative. Le diamant vous échappe et la vente s'organise à grand fracas à l'hôtel Drouot. Serait-elle libre, cette vente? Le plus riche amateur est-il sûr d'acquérir le bijou? Nullement. Au moment où le banquier Herschmann va l'emporter, une dame lui fait passer une lettre de menace et c'est la comtesse de Crozon, préparée, influencée par cette même dame, qui achète le diamant. Va-t-il disparaître aussitôt ? Non. Les moyens vous manquent, donc intermède. Mais la comtesse s'installe dans son château. C'est ce que vous attendiez. La bague disparaît. Pour reparaître dans la poudre dentifrice du consul Bleichen, anomalie bizarre, objecta Lupin. Allons donc, s'écria Herlock en frappant la table du poing. Ce n'est pas à moi qu'il faut compter de telles sornettes. Que les imbéciles s'y laissent prendre, soit, mais pas le vieux renard que je suis. Ce qui veut dire... Sholmès prit un temps, comme s'il voulait ménager son effet. Enfin, il formula. Le diamant bleu qu'on a découvert dans la poudre dentifrice est un diamant faux. Le vrai, vous l'avez gardé. Arsène Lupin demeura un instant silencieux, puis, très simplement, les yeux fixés sur l'anglais. « Vous êtes un rude homme, monsieur. »« Un rude homme, n'est-ce pas ? » souligna Wilson, béant d'admiration. « Oui, » affirma Lupin, « tout s'éclaire. Tout prend son véritable sens. Pas un seul des juges d'instruction, pas un seul des journalistes spéciaux qui se sont acharnés sur ces affaires, n'ont été aussi loin dans la direction de la vérité. C'est miraculeux d'intuition et de logique. « Pfff !» fit l'anglais, flatté de l'hommage d'un tel connaisseur. « Il suffisait de réfléchir. »« Il suffisait de savoir réfléchir, et si peu le savent. Mais maintenant que le champ des suppositions est plus étroit et que le terrain est déblayé, eh bien maintenant, je n'ai plus qu'à découvrir pourquoi les trois aventures se sont dénouées au 25 de la rue Clapeyron, au 134 de l'avenue Henri-Martin et entre les murs du château de Crozon. Toute l'affaire est là. Le reste n'est que baliverne et charade pour enfants. N'est-ce pas votre avis ?
C'est mon avis. Dans ce cas, monsieur Lupin, ai-je tort de répéter que dans 10 jours, ma besogne sera achevée? Dans 10 jours, oui, toute la vérité vous sera connue. Et vous serez arrêté. Non. Non? Il faut, pour que je sois arrêté, un concours de circonstances si invraisemblables, une série de mauvais hasards si stupéfiants, que je n'admets pas cette éventualité. Ce que ne peuvent ni les circonstances ni les hasards contraires, la volonté et l'obstination d'un homme le pourront, monsieur Lupin. Si la volonté et l'obstination d'un autre homme n'opposent à ce dessein un obstacle invincible, monsieur Sholmès. Il n'y a pas d'obstacle invincible, monsieur Lupin. Le regard qu'ils échangèrent fut profond, sans provocation d'une part ni de l'autre, mais calme et hardi. C'était le battement de 2 épées qui engagent le fer. Cela sonnait clair et franc. « À la bonne heure, s'écria Lupin, voici quelqu'un. Un adversaire, mais c'est l'oiseau rare et celui-là est Herlock Sholmès. On va s'amuser. »« Vous n'avez pas peur ?» demanda Wilson. « Presque, monsieur Wilson, et la preuve, dit Lupin en se levant, c'est que je vais hâter mes dispositions de retraite, sans quoi je risquerais d'être pris au gîte. Nous disons donc 10 jours, monsieur Sholmès. 10 jours, nous sommes aujourd'hui dimanche, de mercredi en 8, tout sera fini. Et je serai sous les verrous? Sans le moindre doute. Bigre, moi qui me réjouissais de ma vie paisible, pas d'ennui, un bon petit courant d'affaires, la police au diable, et l'impression réconfortante de l'universelle sympathie qui m'entoure. Il va falloir changer tout cela. Enfin, c'est l'envers de la médaille. Après le beau temps, la pluie. Il ne s'agit plus de rire. Adieu. Dépêchez-vous, fit Wilson, plein de sollicitude pour un individu auquel Sholmès inspirait une considération visible. Ne perdez pas une minute. Pas une minute, monsieur Wilson. Le temps seulement de vous dire combien je suis heureux de cette rencontre et combien j'envie le maître d'avoir un collaborateur aussi précieux que vous. On se salua courtoisement, comme, sur le terrain, 2 adversaires qui ne divisent aucune haine, mais que la destinée oblige à se battre sans merci. Et Lupin, me saisissant le bras, m'entraîna dehors. « Qu'en dites-vous, mon cher ? Voilà un repas dont les incidents feront bon effet dans les mémoires que vous préparez sur moi. » Il referma la porte du restaurant et s'arrêta quelques pas plus loin. « Vous fumez ? » ?»« Non, mais vous non plus, il me semble. » »« Moi non plus. » Il alluma une cigarette à l'aide d'une allumette bougie qu'il agita plusieurs fois pour l'éteindre. Mais aussitôt, il jeta la cigarette. Franchit en courant la chaussée et rejoignit 2 hommes qui venaient de surgir de l'ombre comme appelés par un signal. Il s'entretint quelques minutes avec eux sur le trottoir opposé, puis revint à moi. « Je vous demande pardon. Ce satané Sholmès va me donner du fil à retordre. Mais je vous jure qu'il n'en a pas fini avec Lupin. Ah, le bougre, il verra de quel bois je me chauffe. Au revoir. L'ineffable Wilson a raison. « Je n'ai pas une miette à perdre. » Il s'éloigna rapidement. Ainsi finit cette étrange soirée, ou du moins la partie de cette soirée à laquelle je fus mêlé, car il s'écoula pendant les heures qui suivirent bien d'autres événements que les confidences des autres convives de ce dîner m'ont permis heureusement de reconstituer en détail. Fin de la section 5. Section 6 de Arsène Lupin contre Herlock Sholmès. Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org. Enregistré par Gilles Leblanc. Arsène Lupin contre Herlock Sholmès par Maurice Leblanc. Section 6. Herlock Sholmès ouvre les hostilités. Suite. À l'instant même où Lupin me quittait, Herlock Sholmès tirait sa montre et se levait à son tour. 9h moins 20.
À 9 heures, je dois retrouver le comte et la comtesse à la gare. En route, s'exclama Wilson, avalant coup sur coup 2 verres de whisky. Ils sortirent. Wilson, ne tournez pas la tête. Peut-être sommes-nous suivis. En ce cas, agissons comme s'il ne nous importait point de l'être. Dis donc, Wilson, donnez-moi votre avis. Pourquoi Lupin était-il dans ce restaurant? Wilson n'hésitait pas. Pour manger. Wilson, plus nous travaillons ensemble et plus je m'aperçois de la continuité de vos progrès. Ma parole, vous devenez étonnant. Dans l'ombre, Wilson rougit de plaisir, et Sholmès reprit. Pour manger, soit, et ensuite, tout probablement, pour s'assurer si je vais bien à Crozon, comme l'annonce Ganimard dans son interview. Je pars donc afin de ne pas le contrarier. Mais comme il s'agit de gagner du temps sur lui, je ne pars pas. Ah ! Fit Wilson, interloqué. Vous, mon ami, filez par cette rue. Prenez une voiture, 2, 3 voitures. Revenez plus tard chercher les valises que nous avons laissées à la consigne et au galop jusqu'à l'Élysée Palace. Et à l'Élysée Palace, vous demanderez une chambre où vous vous coucherez, où vous dormirez à point fermé et attendrez mes instructions. Wilson, tout fier du rôle important qui lui était assigné, s'en alla. Herlock Sholmès prit son billet et se rendit à l'express d'Amiens où le comte et la comtesse de Crozon étaient déjà installés. Il se contenta de les saluer, alluma une seconde pipe et fuma paisiblement, debout, dans le couloir. Le train s'ébranla. Au bout de 10 minutes, il vint s'asseoir auprès de la comtesse et lui dit « Vous avez là votre bague, madame ?»« Oui. »« Ayez l'obligeance de me la prêter. » Il la prit et l'examina. C'est bien ce que je pensais. C'est du diamant reconstitué. Du diamant reconstitué? Un nouveau procédé qui consiste à soumettre de la poussière de diamant à une température énorme, de façon à la réduire en fusion, et à n'avoir plus qu'à la reconstituer en une seule pierre. Comment? Mais mon diamant est vrai. Le vôtre, oui. Mais celui-là n'est pas le vôtre. « Où donc est le mien ?»« Entre les mains d'Arsène Lupin. »« Et alors, celui-là »« Celui-là a été substitué au vôtre et glissé dans le flacon de M. Bleschen où vous l'avez retrouvé. »« Il est donc faux ?»« Absolument faux. » Interdite, bouleversée, la comtesse se taisait, tandis que son mari, incrédule, tournait et retournait le bijou en tous sens. Elle finit par balbutier. « Est-ce possible? Mais pourquoi ne l'a-t-on pas volé tout simplement? Et puis, comment l'a-t-on pris? » « C'est précisément ce que je vais tâcher d'éclaircir. »« Au château de Crozon? » ?»« Non, je descends à Creil et je retourne à Paris. C'est là que doit se jouer la partie entre Arsène Lupin et moi. Les coups vaudront pour un endroit comme pour l'autre. » Mais il est préférable que Lupin me croie en voyage. Cependant, que vous importe, madame? L'essentiel, c'est votre diamant, n'est-ce pas? Oui. Eh bien, soyez tranquille. J'ai pris tout à l'heure un engagement beaucoup plus difficile à tenir. Foi d'Herlock Sholmès, je vous rendrai le véritable diamant. Le train ralentissait. Il mit le faux diamant dans sa poche et ouvrit la portière. Le comte s'écria. Mais vous descendez à contre-voie. De cette manière, si Lupin me fait surveiller, on perd ma trace. Adieu. Un employé protesta vainement. L'anglais se dirigea vers le bureau du chef de gare. 50 minutes après, il sautait dans un train qui le ramenait à Paris un peu avant minuit. Il traversa la gare en courant, rentra par le buffet. Sortit par une autre porte et se précipita dans un fiacre. Coché, rue Clapeyron. Ayant acquis la certitude qu'il n'était pas suivi, il fit arrêter sa voiture au commencement de la rue et se livra à un examen minutieux de la maison de maître Detinan
et des deux maisons voisines. À l'aide d'enjambées égales, il mesurait certaines distances et inscrivait des notes et des chiffres sur son carnet. Cocher, avenue Henri Martin. Au coin de l'avenue et de la rue de la Pompe, il régla sa voiture, suivit le trottoir jusqu'au 134 et recommença les mêmes opérations devant l'ancien hôtel du baron d'Autrec et les deux immeubles de rapport qui l'encadrent, mesurant la largeur des façades respectives et calculant la profondeur des petits jardins qui précèdent la ligne de ces façades. L'avenue était déserte et très obscure sous ces quatre rangées d'arbres entre lesquels, de place en place, un bec de gaz semblait lutter inutilement contre des épaisseurs de ténèbres. L'un d'eux projetait une pâle lumière sur une partie de l'hôtel, et Sholmès vit la pancarte, allouée, suspendue à la grille. Les deux allées incultes qui encerclaient la menue pelouse et les vastes fenêtres vides de la maison inhabitée. « C'est vrai, se dit-il, depuis la mort du baron, il n'y a pas de locataire. Ah, si je pouvais entrer et faire une première visite !» Il suffisait que cette idée l'effleurât pour qu'il voulût la mettre en exécution. Mais comment ? La hauteur de la grille rendant impossible toute tentative d'escalade, il tira de sa poche une lanterne électrique et une clé passe-partout qu'il ne quittait pas. À son grand étonnement, il s'avisa qu'un des battants était entrouvert. Il se glissa donc dans le jardin en ayant soin de ne pas refermer le battant. Mais il n'avait pas fait trois pas qu'il s'arrêta. À l'une des fenêtres du second étage, une lueur avait passé. Et la lueur repassa à une deuxième fenêtre et à une troisième, sans qu'il pût voir autre chose qu'une silhouette qui se profilait sur les murs des chambres. Et du second étage, la lueur descendit au premier et longtemps erra de pièce en pièce. Qui diable peut se promener à une heure du matin dans la maison où le baron d'Autrec a été tué ? Se demanda Herlock, prodigieusement intéressé. Il n'y avait qu'un moyen de le savoir, c'était de s'y introduire soi-même. Il n'hésita pas. Mais au moment où il traversait pour gagner le perron, la bande de clarté que lançait le bec de gaz, l'homme dut l'apercevoir, car la lueur s'éteignit soudain et Herlock Sholmès ne la revit plus. Doucement, il appuya sur la porte qui commandait le perron. Elle était ouverte également. N'entendant aucun bruit, il se risqua dans l'obscurité, rencontra la pomme de la rampe et monta un étage. Et toujours le même silence, les mêmes ténèbres. Arrivé sur le palier, il pénétra dans une pièce et s'approcha de la fenêtre que blanchissait un peu la lumière de la nuit. Alors il avisa dehors l'homme qui, descendu sans doute par un autre escalier, et sorti par une autre porte, se faufilait à gauche, le long des arbustes qui bordent le mur de séparation entre les deux jardins. « Fiche !» s'écria Sholmès. « Il va m'échapper !» Il dégringola l'étage et franchit le perron afin de lui couper toute retraite. Mais il ne vit plus personne. Il lui fallut quelques secondes pour distinguer dans le fouillis des arbustes une masse plus sombre qui n'était pas tout à fait immobile. L'Anglais réfléchit. Pourquoi l'individu n'avait-il pas essayé de fuir alors qu'il l'eût pu si aisément? Demeurait-il là pour surveiller à son tour l'intrus qui l'avait dérangé dans sa mystérieuse besogne? En tout cas, pensa-t-il, ce n'est pas Lupin. Lupin serait plus adroit. C'est quelqu'un de sa bande. De longues minutes s'écoulèrent. Herlock ne bougeait pas, l'œil fixé sur l'adversaire qui l'épiait. Mais comme cet adversaire ne bougeait pas davantage et que l'Anglais n'était pas homme à se morfondre dans l'inaction, il vérifia si le barillet de son revolver fonctionnait, dégagea son poignard de sa gaine et marcha droit sur l'ennemi avec cette audace froide et ce mépris du danger qui le rendent si redoutable. Un bruit sec. L'individu armait son revolver. Herlock se jeta brusquement dans le massif. L'autre n'eut pas le temps de se retourner. L'Anglais était déjà sur lui. Il y eut une lutte violente, désespérée, au cours de laquelle Herlock devinait l'effort de l'homme pour tirer son couteau. Mais Sholmès, qu'exaspérait l'idée de sa victoire prochaine, le désir fou de s'emparer, dès la première heure, de ce complice d'Arsène Lupin, sentait en lui des forces irrésistibles. Il renversa son adversaire, pesa sur lui de tout son poids, et l'immobilisant de ses cinq doigts plantés dans la gorge du malheureux comme les griffes d'une serre, de sa main libre, il chercha sa lanterne électrique, en pressa le bouton et projeta la lumière sur le visage de son prisonnier. « Wilson » hurla-t-il, terrifié. « Herlock Sholmès !» balbutia une voix étranglée, caverneuse. Ils demeuraient longtemps l'un près de l'autre sans échanger une parole, tous deux anéantis, le cerveau vide. La corne d'une automobile déchira l'air. Un peu de vent agita les feuilles. Et Sholmès ne bougeait pas, les cinq doigts toujours agrippés à la gorge de Wilson, qui exhalait un râle de plus en plus faible. Et soudain, Herlock, envahi d'une colère, lâcha son ami, mais pour l'empoigner par les épaules et le secouer avec frénésie. « Que faites-vous là? Répondez, quoi? Est-ce que je vous ai dit de vous fourrer dans les massifs et de m'espionner? »« Vous espionnez, gémit Wilson, mais je ne savais pas que c'était vous. » « Alors quoi? Que faites-vous là? Vous deviez vous coucher. »« Je me suis couché. Il fallait dormir. »« J'ai dormi. »« Il ne fallait pas vous réveiller. »« Votre lettre. »«
Ma lettre? » ?»«
Oui, celle qu'un commissionnaire m'a apportée de votre part à l'hôtel. »«
De ma part? Vous êtes fou. »«
Je vous jure. » »« Où est cette lettre? »
Son ami lui tendit une feuille de papier. À la clarté de sa lanterne, il lut avec stupeur.
Wilson, hors du lit et filez avenue Henri Martin. La maison est vide. Entrez, inspectez, dressez un plan exact et retournez vous coucher. Herlock Sholmès.
J'étais en train de mesurer les pièces, dit Wilson, quand j'ai aperçu une ombre dans le jardin. Je n'ai eu qu'une idée. C'est de vous emparer de l'ombre. L'idée était excellente. « Seulement, voyez-vous, » dit Sholmès en aidant son compagnon à se relever et en l'entraînant une autre fois, « Wilson, lorsque vous recevez une lettre de moi, assurez-vous d'abord que mon écriture n'est pas imitée. »«
Mais alors, » fit Wilson, commençant à entrevoir la vérité, « la lettre n'est donc pas de vous ?»«
Hélas, non. »«
De qui ?»«
D'Arsène Lupin. »«
Mais dans quel but l'a-t-il écrite ?»«
Ah !» Ça, je n'en sais rien, et c'est justement ce qui m'inquiète. Pourquoi diable s'est-il donné la peine de vous déranger?
S'il s'agissait encore de moi, je comprendrais. Mais il ne s'agit que de vous, et je me demande quel intérêt.
J'ai hâte de retourner à l'hôtel.
Moi aussi, Wilson.
Ils arrivaient à la grille. Wilson, qui se trouvait en tête, saisit un barreau et tira.
« Tiens, dit-il, vous avez fermé ?»
« Mais nullement. J'ai laissé le battant tout contre. Cependant, Herlock tira à son tour, puis, effaré, se précipita sur la serrure. Un juron lui échappa.
« Tonnerre de Dieu ! Elle est fermée ! Fermée à clé !»
Il ébranla la porte de toute sa vigueur, puis, comprenant la vanité de ses efforts, laissa tomber ses bras, découragé, et l'articula d'une voix saccadée.
« Je m'explique tout maintenant. C'est lui. Il a prévu que je descendrais à Créy. Il m'a tendu ici une jolie petite souricière pour le cas où je viendrais commencer mon enquête le soir même. En outre, il a eu la gentillesse de m'envoyer un compagnon de captivité. Tout cela pour me faire perdre un jour, et aussi, sans doute, pour me prouver que je ferais bien mieux de me mêler de mes affaires.
C'est-à-dire que nous sommes ses prisonniers.
Vous avez dit le mot. Herlock Sholmès et Wilson sont les prisonniers d'Arsène Lupin. L'aventure s'engage à merveille. Mais non, il n'est pas admissible. Une main s'abattit sur son épaule, la main de Wilson.
Là-haut, regardez là-haut, une lumière.
En effet, l'une des fenêtres du premier étage était illuminée. Ils s'élancèrent tous deux au pas de course, chacun par son escalier, et se retrouvèrent en même temps à l'entrée de la chambre éclairée. Au milieu de la pièce brûlait un bout de bougie. À côté, il y avait un panier, et de ce panier émergeait le goulot d'une bouteille, les cuisses d'un poulet et la moitié d'un pain. Sholmès éclata de rire. À merveille, on nous offre à souper. C'est le palais des enchantements. Une vraie féerie. Allons, Wilson, ne faites pas cette figure d'enterrement. Tout cela est très drôle.
Êtes-vous sûr que ce soit très drôle? Gémit Wilson, lugubre.
Si, j'en suis sûr, s'écria Sholmès, avec une gaieté un peu trop bruyante pour être naturelle. C'est-à-dire que je n'ai jamais rien vu de plus drôle. C'est du bon comique. Quel maître ironiste que cet Arsène Lupin! Il vous roule, mais si gracieusement. Je ne donnerai pas ma place à ce festin pour tout l'or du monde. Wilson, mon vieil ami, vous me chagrinez. Me serais-je mépris et n'auriez-vous point cette noblesse de caractère qui aide à supporter l'infortune? De quoi vous plaignez-vous? À cette heure, vous pourriez avoir mon poignard dans la gorge, ou moi le vôtre dans la mienne. Car c'est à bien ce que vous cherchiez, mauvais ami. Il parvint, à force d'humour et de sarcasme, à ranimer ce pauvre Wilson, et à lui faire avaler une cuisse de poulet et un verre de vin. Mais quand la bougie eut expiré, qu'il dut s'étendre pour dormir sur le parquet et accepter le mur comme oreiller, le côté pénible et ridicule de la situation leur apparut, et leur sommeil fut triste. Au matin, Wilson s'éveilla, courbaturé et transi de froid. Un léger bruit attirait son attention. Herlock Sholmès, à genoux, courbé en deux, observait à la loupe des grains de poussière et relevait des marques de craie blanche, presque effacées, qui formaient des chiffres, lesquels chiffres il inscrivait sur son carnet. Escorté de Wilson, que ce travail intéressait d'une façon particulière, il étudia chaque pièce, et dans deux autres, il constata les mêmes signes à la craie. Et il nota également deux cercles sur des panneaux de chêne, une flèche sur un lambris et quatre chiffres sur 4 degrés d'escalier. Au bout d'une heure, Wilson lui dit « Les chiffres sont exacts, n'est-ce pas ?»« Exacts, j'en sais rien, » répondit Herlock, à qui de telles découvertes avaient rendu sa belle humeur. « En tout cas, il signifie quelque chose. »«
Quelque chose de très clair, » dit Wilson. Il représente le nombre des lames de parquet.
Ah!
Oui, quant aux deux cercles, il indique que les panneaux sonnent faux, comme vous pouvez vous en assurer, et la flèche est dirigée dans le sens de l'ascension du mont plat.
Herlock Sholmès le regarda, émerveillé.
Ah ça, mon bon ami, comment savez-vous tout cela? Votre clairvoyance me rend presque honteux.
« Oh, c'est bien simple, » dit Wilson, gonflé de joie. « C'est moi qui ai tracé ces marques hier soir, suivant vos instructions, ou plutôt suivant celles de Lupin, puisque la lettre que vous m'avez adressée est de lui. » Peut-être Wilson courut-il à cette minute un danger plus terrible que pendant sa lutte dans le massif avec Sholmès. Celui-ci eut une envie féroce de l'étrangler. Se dominant, il esquissa une grimace qui voulait être un sourire et prononça « Parfait, parfait. Voilà de l'excellente besogne et qui nous avance beaucoup. Votre admirable esprit d'analyse et d'observation s'est-il exercé sur d'autres points? Je profiterai des résultats acquis. » « Ma foi, non, j'en suis resté là. Dommage. Le début promettait. Mais puisqu'il en est ainsi, nous n'avons plus qu'à nous en aller. »
« Nous en aller? Et comment ?»
Selon le mode habituel des honnêtes gens qui s'en vont, par la porte.
Elle est fermée.
On l'ouvrira.
Qui?
Veuillez appeler ces deux policemen qui déambulent sur l'avenue.
Mais
quoi? C'est fort humiliant. Que dirait-on quand on saura que vous, Herlock Sholmès, et moi, Wilson, nous avons été prisonniers d'Arsène Lupin?
Que voulez-vous, mon cher? « On rira à se tenir les côtes, » répondit Herlock, la voix sèche, le visage contracté.
« Mais nous ne pouvons pourtant pas élire domicile dans cette maison.
Et vous ne tentez rien ?»«
Rien.
Cependant, l'homme qui nous a apporté le panier de provisions n'a traversé le jardin ni à son arrivée ni à son départ. Il existe donc une autre issue. Cherchons-la et nous n'aurons pas besoin de recourir aux agents. »
Puissamment raisonné. Seulement, vous oubliez que, cette issue, toute la police de Paris l'a cherchée depuis 6 mois et que moi-même, tandis que vous dormiez, j'ai visité l'hôtel du haut en bas. Ah, mon bon Wilson, Arsène Lupin est un gibier dont nous n'avons pas l'habitude. Il ne laisse rien derrière lui, celui-là. À 11 heures, Herlock Sholmès et Wilson furent délivrés et conduits au poste de police le plus proche, où le commissaire, après les avoir sévèrement interrogés, les relâcha avec une affectation d'égard tout à fait exaspérante.
« Je suis désolé, messieurs, de ce qui vous arrive. Vous allez avoir une triste opinion de l'hospitalité française. Mon Dieu, quelle nuit vous avez dû passer! Ah, ce Lupin manque vraiment d'égard. » Une voiture les mena jusqu'à l'Élysée Palace. Au bureau, Wilson demanda la clé de sa chambre. Après quelques recherches, l'employé répondit, très étonné, « Mais, monsieur, vous avez donné congé de cette chambre. »«
Moi ? Et comment ? » ?»«
Par votre lettre de ce matin, que votre ami nous a remise. »«
Quel ami ? » ?»«
Le monsieur qui nous a remis votre lettre. Tenez, votre carte de visite y est encore jointe. Les voici. »
Wilson les prit. C'était bien une de ses cartes de visite et, sur la lettre, c'était bien son écriture.
« Seigneur Dieu, murmura-t-il, voilà encore un vilain tour. » Il ajouta anxieusement, « Et les bagages ? » ?»«
Mais votre ami les a emportés. » »«
Ah, et vous les avez donnés ? » ?»«
Certes, puisque votre carte nous y autorisait. » »«
En effet, en effet. »
Ils s'en allèrent tous deux à l'aventure, par les Champs-Élysées, silencieux et lents. Un joli soleil d'automne éclairait l'avenue. L'air était doux et léger. Au rond-point, Herlock alluma sa pipe et se remit en marche. Wilson s'écria.
« Je ne vous comprends pas, Sholmès. Vous êtes d'un calme. On se moque de vous. On joue avec vous comme un chat joue avec une souris, et vous ne soufflez pas mot. »
Sholmès s'arrêta et lui dit. « Wilson, je pense à votre carte de visite. »«
Eh bien, voilà un homme qui, en prévision d'une lutte possible avec nous, s'est procuré des spécimens de votre écriture et de la mienne, et qui possède, toute prête dans son portefeuille, une de vos cartes. Songez-vous à ce que cela représente de précaution, de volonté perspicace, de méthode et d'organisation, c'est-à-dire...
C'est-à-dire, Wilson, que pour combattre un ennemi si formidablement armé, si merveilleusement préparé, et pour le vaincre, il faut être moi. Et encore, comme vous le voyez, Wilson, ajouta-t-il en riant, on ne réussit pas du premier coup.
À 6 heures, l'Écho de France, dans son édition du soir, publiait cet entrefilet.
Ce matin, M. Thénard, commissaire de police du 16e arrondissement, a libéré M. Herlock Sholmès et Wilson, enfermés par les soins d'Arsène Lupin dans l'hôtel du défunt baron d'Autrec, où ils avaient passé une excellente nuit. Allégés en outre de leurs valises, ils ont déposé une plainte contre Arsène Lupin. Arsène Lupin qui, pour cette fois, s'est contenté de leur infliger une petite leçon, les supplie de ne pas le contraindre à des mesures plus graves.
« Bah !» fit Herlock Sholmès en froissant le journal. « Des gamineries. C'est le seul reproche que j'adresse à Lupin. Un peu trop d'enfantillage. La galerie compte trop pour lui. Il y a du gavroche dans cet homme. »
« Ainsi donc, Herlock, toujours le même calme ?»«
Toujours le même calme, répliqua Sholmès avec un accent où grondait la plus effroyable colère. À quoi bon m'irriter? Je suis tellement sûr d'avoir le dernier mot. »
Fin de la section 6.
Experience holiday cheer at Tanger Outlets with savings up to 70% off your favorite brands. From fragrances to accessories and the latest styles, discover the best gifts for everyone on your list. Save big at Nike Factory Store, Michael Kors, Under Armour, Coach, Polo Ralph Lauren, Kate Spade New York, and so many more. Unwrap the best at Tanger Outlets. Hundreds of brands, endless gifting options. Plan your trip at tanger.com.
Experience holiday cheer at Tanger Outlets with savings up to 70% off your favorite brands. From fragrances to accessories and the latest styles, discover the best gifts for everyone on your list. Save big at Nike Factory Store, Michael Kors, Under Armour, Coach, Polo Ralph Lauren, Kate Spade New York, and so many more. Unwrap the best at Tanger Outlets. Hundreds of brands, endless gifting options. Plan your trip at Tanger.com.